Et comment est-ce que, en fait, c'est des journées le vendredi, un peu en amont du congrès. C'est un peu l'apéritif. Pour ceux qui ont un peu des appels particuliers ou pour certains ministères, on crée des journées aussi un peu en fonction de la demande et des possibilités. Voilà. Donc ça, c'est un peu... je vous fais un peu le panel. Sachant que donc, le congrès mission est porté par la structure d'Annunzio. C'est évident que le congrès mission est nourri de notre expérience, nous, comme Annunzio. Annunzio, on est un peu bizarre dans le paysage chrétien, parce que de fait, on n'est pas une église, on n'est pas un mouvement comme un autre, on n'est pas une communauté, on est vraiment un service d'église. Et dans ce service d'église, quand on y passe beaucoup de temps, on sent qu'il y a un besoin ensemble de vie communautaire, de formation ensemble, etc. Et donc du coup, on va créer des fraternités, on va créer des maisons missionnaires parce qu'en fait, on veut expérimenter ensemble ce que l'on veut vivre dans notre quotidien, d'être évangélisateur au quotidien, d'évangéliser chaque semaine, de prendre un temps pour ça, pour aller rencontrer les gens de son quartier. Et ben en fait, c'est plus facile de le faire ensemble, de tester des choses. Et donc du coup, on développe une vie communautaire. Mais non pas parce que c'est notre communauté, mais plus parce qu'en fait, on est engagé là-dedans et que c'est mieux de le faire à plusieurs. Mais qu'on est vraiment dans Annunzio, il y a plein de gens qui sont engagés dans plein d'églises locales différentes. Moi, je suis engagée, par exemple, en 20e arrondissement de Paris, une église. Et c'est là où, en fait, avec d'autres Annunzio, on s'est implanté. Donc, on a choisi ce quartier pour y vivre. Et pour y vivre l'évangélisation, on s'est en lien avec les églises locales. Donc voilà, donc on est un peu particulier. Et puis nous, ce qui est aussi de la réflexion par rapport à la mission, on a toujours eu un peu ces deux mouvements, c'est qu'à la fois, on a mis en pratique, et ce que l'on vivait, ce qui se voyait en pratique à ce moment-là, nous poussait à réfléchir, à nous former. Aucun d'entre nous n'a fait d'études de théologie, n'a fait d'études bibliques. Donc là, aujourd'hui, on en a certains qui commencent à se consacrer, une notamment qui commence à se consacrer à l'étude biblique, une autre qui fait des études de théologie, et on se forme petit à petit. Mais en fait, aucun d'entre nous n'est missionnaire à plein temps. On est des laïcs, on a tous un travail dans le monde. Et du coup, en fait, on a vraiment eu ces deux choses, c'est qu'on vivait l'expérience de l'évangélisation et au fur et à mesure, on relisait, on affinait et on travaillait un peu les différents sujets. Pour vous donner un peu des billes, pour vous donner un peu l'esprit, nous, dans l'évangélisation, on a vraiment une spiritualité de l'amitié. C'est vraiment, on est provocateur de rencontres, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les gens à un moment où ils ne s'attendent pas à être rencontrés, qu'ils soient chez eux, sur les plages, dans le métro, etc. Mais la manière dont on a de vivre est vraiment dans une spiritualité de l'amitié, de la rencontre. On vient te rencontrer, toi, et on vient échanger ensemble sur ce sujet-là, notamment en France, où en fait, on n'aborde jamais ce sujet-là et c'est complètement lié à la vie privée. Et ben en fait, on vient ouvrir une fenêtre parce qu'on croit que en fait, c'est ensemble qu'on va pouvoir accéder à la vérité et c'est ensemble qu'on va pouvoir réfléchir sur ces sujets de la foi et qu'on a besoin d'être ensemble pour y réfléchir. Et en fait, quand on est provocateur de rencontres comme ça, majoritairement, 99% des cas, les gens sont heureux qu'on vienne les voir et sont prêts. Et notamment, on a fait aussi des petits sondages. La majeure partie des gens sont prêts à aborder ce sujet de la foi dans une relation de one-to-one, d'amitié, d'échange, où en fait la personne en face est véritablement ouverte à la rencontre. Et du coup, nous, c'est vraiment dans cette spiritualité de l'amitié aussi. Et du coup, bah, très souvent, par exemple, on devient amis avec des gens qu'on a rencontrés dans la rue, même chez eux. Typiquement, nous, maintenant, des gens dans l'Annunzio, il y en a pas mal qui viennent de ces rencontres-là. Enfin, il y en a plusieurs qui viennent de ces rencontres-là. Ou également, là, je vois dans mon église, bah, en fait, c'est ça. Quand on les a, je fais de la mission donc, toutes les semaines, tous les samedis, avec le vicaire de... prêtre de la paroisse, on part tous les deux, puis on va rencontrer les gens du quartier, on prend une heure et demie pour aller les rencontrer, passer du temps avec eux. Et en fait, comme ça, ben, on a les serveuses du bar d'à côté qu'on est allé rencontrer un matin, qui finalement viennent à l'église, etc. Et puis en fait, s'en servent très très naturellement dans le processus, enfin, voilà, dans la vie ecclésiale. Et ben, voilà, comme vous pouvez le dire, qui ont besoin de goûter aussi avant de véritablement donner leur vie au Christ et qui viennent goûter et grandir avec l'Église. Voilà, donc on a un certain nombre de gens dont je suis amie aujourd'hui, que j'ai rencontré dans ces temps-là. Mais également, donc, du coup, un peu pour toutes les formations, je m'occupe un peu aussi de la formation des plusieurs formateurs Parce que dans Annuncio, on a du coup, on a organisé, mais aussi dans la formation, on va former les gens à l'évangélisation, que ce soit l'évangélisation directe, mais également parce qu'on s'est aussi rendu compte dans l'expérience, enfin rendu compte, on savait déjà bien, mais bon, on a vu que les paroisses et les églises, en tout cas chez les catholiques, n'avaient souvent pas les possibilités d'accueillir les personnes qui étaient en recherche ou en questionnement une fois qu'on les avait rencontrées. Et donc que l'évangélisation directe ne suffisait pas, il fallait une conversion communautaire dans les pastorales. Et donc du coup, c'est lancé, en tout cas, voilà, on a lancé dans Annuncio un peu tout le plan d'accompagnement des paroisses dans la conversion pastorale missionnaire. Donc c'est un accompagnement qu'on fait pour des églises, dont la première vraiment période est de 2 ans et demi, c'est vraiment un parcours de 2 ans et demi qu'on fait avec les équipes locales. On envoie un peu des missionnaires à Annuncio qui vont aider la paroisse, l'église, à repenser les choses, notamment pour accueillir et pour que chacun se sente véritablement accueilli et ait en fait des possibilités pour découvrir le Christ derrière. Donc c'est là-dedans aussi que, notamment, j'ai travaillé avec Andy Buckler, qui est venu intervenir plusieurs fois dans votre journée, ou Raphaël aussi, sur les différents profils d'évangélistes et comment est-ce qu'on pouvait travailler là-dessus. Mais également, on a fait pas mal de voyages missionnaires pour aller chercher aux États-Unis, au Chili, au Brésil, au Canada, à Londres, chez HTV, etc. Donc, on a fait pas mal de voyages pour aller chercher des idées, des gens, travailler, soumettre nos idées et affiner petit à petit aussi nos formations dans l'évangélisation, la pratique de l'évangélisation. Pour vous donner un peu un panel des différentes formations et voir comment ça peut. Ça peut en tout cas bouger aussi chez nous. On a la formation à la rencontre, c'est la base chez nous, la formation au témoignage, mais aussi la formation à l'écoute, aux questions puissantes. Donc quand on voit Jésus qui pose des questions, à la fois des questions que les gens se posent et qui prennent ce temps de dire c'est quoi ta question, et on va prendre le temps, c'est quoi ton cri, et on va prendre le temps avec ce que tu m'apportes, mais également de poser des questions que les gens ne se posent pas, ne se posent plus, ne pensent plus avoir les capacités de se poser. Ça c'était vraiment l'écoute et les questions puissantes. On a la prière avec les personnes rencontrées aussi dans la rue. On a la formation aussi évangélisée face au relativisme. On a aussi toute une formation sur l'homme est-il capable de rentrer en relation avec Dieu, est-il capable de connaître Dieu, parce que c'était des questions, vous voyez, c'est plein de questions qui viennent et des missionnaires et des gens qui sont rencontrés dans la rue. Et à ce moment-là, nous, derrière, on travaille, on cherche, on expérimente. Mais on est loin d'être théologien, on est missionnaire, tout simple. On cherche beaucoup ensemble. Notamment aussi, on a travaillé, une chose, je vais vous donner un petit exemple sur la manière dont ça se construit. En 2015, j'étais responsable d'une mission à Montpellier et par les certains événements de rencontre, je commence à prier pour une personne qui ne pouvait pas marcher depuis 6 ans. Et elle me dit, moi je ne veux pas entendre parler de Dieu tant qu'en fait Dieu ne m'a pas guéri. Et moi intérieurement je dis, en fait ça c'est ton taf de Dieu. Donc moi je suis missionnaire, mon taf c'est de proposer la voie, c'est d'annoncer ton amour. En fait là il y a un blocage, là c'est à toi de faire. Je crois en toi, fais ton job. Et du coup, je prie pour cette personne-là, avec foi, mais très simple. Et puis je dis, merci, on est à l'église Saint-Roch, au centre de Montpellier. Bonne journée, si tu veux venir nous rejoindre, je pars et le soir, qui vient en marchant, cette dame. Donc, pour moi, ça a été un peu un électrochoc de voir une guérison qui avait lieu, et pour toute la petite communauté qu'on était missionnaire. On a été un peu interpellés en se disant, mais en fait, on a peur, on n'a pas la foi. La plus grande des miracles, c'est la conversion du cœur. À partir de là, pourquoi est-ce qu'on se bloque dans nos demandes et dans nos prières et dans notre accueil du cri des personnes qui sont en face de nous? Et le lendemain, arrive un homme qui était voyant, magnétiseur, etc. On l'accompagne vraiment sans que je sache absolument ce qu'il en était, de véritablement accompagner cet homme dans de la prière de délivrance et de renoncer véritablement au lien qu'il avait. Je n'avais aucune formation à ce sujet, je ne savais strictement pas ce qu'il en était, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, mais notamment j'ai fait. Et cet homme a vraiment vécu une vraie délivrance avec des signes ben voilà, qui était assez explicite, mais que j'ai appris après. Et de par ces événements, puis on a commencé à avoir aussi des paroles de connaissance pour les personnes qu'on rencontrait dans la rue. Ben voilà, ce matin, quand tu faisais griller ton pain, tu t'es dit ça, aujourd'hui le Seigneur va te répondre. Et ça ne nous était pas tellement arrivé avant. Et voilà, donc à partir de là, on a choisi de travailler un peu ces sujets-là. On a appelé des personnes, notamment pour la guérison. J'ai appelé Marie Ely aux États-Unis, voilà, qui travaille aussi sur la guérison. On a appelé Matteo Zano sur la question de la délivrance. On est allé chercher plusieurs personnes, que ce soit dans le monde évangélique ou dans le monde catholique, qui pouvaient nous aider, nous partager qu'est-ce qu'ils voyaient, comment est-ce qu'ils le faisaient, qu'est-ce qui se passait, pour que nous, on puisse se former aussi, même au niveau biblique, théologique, qu'on puisse expérimenter, prendre du temps de relire et de voir aussi comment former d'autres à vraiment collaborer avec l'Esprit-Saint et à ne pas se mettre de limites aussi dans dans l'évangélisation, tout en abordant du coup aussi, par exemple, des gros thèmes qui étaient liés à la liberté des personnes dans la rencontre ou dans l'évangélisation et à vraiment préserver cette liberté, des choses comme ça. Donc voilà, je vous donne un peu cet exemple-là pour vous montrer comment est-ce que nous aussi on construit un peu notre réflexion par rapport à la mission, que ce soit dans Annuncio, et qui évidemment impacte le congrès parce qu'on porte le congrès et que c'est issu de notre expérience concrète de l'évangélisation qu'on va voir aussi dans le congrès, dans plus ou moins telle ou telle chose. Et puis, pour terminer, un des derniers bébés, parce qu'il y a des idées toutes les 4 secondes chez nous, on a donc lancé depuis l'année dernière ce qu'on appelle la revue mission. C'est une manière de continuer le travail du congrès mission tout au long de l'année, avec le fait par une revue trimestrielle, avec des articles, des témoignages, etc., de personnes juste qui partagent leur expérience. Donc il y a un peu plein de rubriques différentes, hein, mais il y a travailler un peu des sujets de fond sur la mission. C'est avoir des témoignages de personnes d'expériences diverses. C'est avoir un peu une boîte, entre guillemets, boîte à outils, mais c'est partage d'expériences concrètes. Donc un peu la continuité des ateliers qu'on a pendant l'année. On a un parcours Venez et Voyez pour la découverte de la foi en 4 soirées. Un peu ce que c'est, et ensuite le contact, vous pouvez l'avoir. Donc dans plein de choses, pour évangéliser les enfants entre 5 et 10 ans, telle initiative qui a été faite et les fruits qui sont observés. Donc, je vous ai fait un peu en une demi-heure, 35 minutes, là, un peu le paysage global, il y a probablement plein de questions, mais vraiment, pour moi, je vais vous dire un peu les fruits, parce que, aussi du congrès, de la vie dans Annuncio, etc., on voit vraiment, même dans le congrès, des fruits vraiment personnels de conversion, et aussi de conversion dans la manière de concevoir la mission, et la mission encore. Moi, franchement, je vais le dire avec vraie simplicité. En vrai, très honnêtement, si je pouvais enlever 50% d'Église catholique et pas travailler avec elle, ça m'arrangerait bien. Et le congrès mission m'a permis de me rendre compte que ma conversion et la conversion du monde étaient liées à une vraie communion qu'on allait vivre ensemble, et que c'était ensemble qu'on allait pouvoir bosser. Et que désormais, par exemple, ma préoccupation, c'est que tous rentrent dans ce mouvement. Et que la préoccupation du congrès, c'est que tous rentrent dans ce mouvement d'évangélisation, que tous rentrent dans ce mouvement de conversion personnelle et communautaire. Et de pouvoir voir en fait ce réseau qui commence à se mettre en place dans certains églises. J'allais prêcher à Besançon la semaine dernière, et en fait c'était fou de voir Besançon. Après, une fois qu'on m'a dit qu'il allait avoir un congrès mission à Besançon, je me suis dit, mais que peut-il sortir de bon de Besançon? Besançon, on en parle, un congrès à Besançon. Et en fait, la semaine dernière, les gars étaient super chauds pour la mission, vraiment de tout type de sociologie, de mouvements d'église, d'histoire chrétienne, qui étaient tous là pour dire en fait on veut bosser ensemble localement pour l'évangélisation, on veut travailler ensemble dans nos différentes paroisses, communautés, mouvements, etc. On voit aussi un vrai fruit aussi de la communion, je trouve, entre évangéliques et aussi protestants et catholiques, ou en tout cas nous chez les catholiques, on va beaucoup plus aller chercher chez les uns chez les autres, aller faire des voyages, aller visiter des églises pour dire comment vous faites, vous venez nous former sur tel et tel point, et que c'est vraiment fou. Et on voit aussi pas mal de fruits missionnaires de communautés locales, d'églises locales qui changent et qui se transforment quand même pas mal. Donc voilà, de beaucoup de personnes qui arrivent dans les églises. Donc ça, c'est un vrai, voilà, une vraie joie. Voilà un peu le paysage. Merci.
Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage, cette présentation hein, à la fois d'Annunzio et du congrès Mission. Moi personnellement, j'ai beaucoup découvert. Voilà, venant du milieu luthéro-réformé plus classique, c'est évidemment une découverte. Dans ce que vous avez présenté, je donne la parole à l'Assemblée. Voilà. Alors, il y a Jean-Georges et puis Paulin. Dans l'ordre.
Alors, hier soir, on a appris de M. Schlegel ce terme mouvement tradicharismatique. Quelle est votre spiritualité dans votre mouvement ? C'est plutôt tradi ou charismatique ?
Juste, il faut qu'on se présente un peu.
Jean-Georges Kantenbein, voilà. Je suis missiologue et aussi pasteur évangélique, directeur régional. Une grande église en France.
Merci.
Alors, pour Annunzio, on est plutôt charismatique, dirons-nous. Mais en vrai, vraiment, je vous dis, on est un peu des phénomènes dans le paysage même catholique. On est un peu bizarre, quoi, parce que, même si on voit au niveau politique, les gens de droite, des églises catholiques de droite, disent qu'on est de gauche, et les gauches nous disent qu'on est de droite. Les charismatiques modernistes nous disent « vous avez un des côtés tradis » et puis les tradis nous disent « vous êtes hyper chacha, hyper charismatique ». Bon, j'ai envie de dire « on est nous ». Et puis en fait, on essaye de bosser avec le bon Dieu et surtout on essaye de ne pas se mettre dans une case et que s'il faut changer demain, on changera demain et voilà. Et naturellement, on s'est construit, que ce soit avec des dominicains, avec des franciscains, des communautés brésiliennes, avec des évangéliques. Enfin, moi, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps dans l'église Ilsong. Et ben, de fait, en fait, on revient avec des amitiés. Et puis, du coup, on se met en lien. Ou, par exemple, j'ai habité avec des protestants pendant 3-4 ans qui étaient dans notre université. Et donc, du coup, ça a permis de nourrir beaucoup de choses. Et quand ils ont implanté leur église, on a échangé. Donc, voilà, on est charismatique de fait, mais on a un style particulier. Je pense qu'on peut se le dire. Et dans le congrès, on a de fait aussi peut-être une couleur charismatique liée aussi, on a pas mal dans la louange, etc. Mais on essaye de plus en plus de diversifier les langages, notamment dans les veillées, les différentes messes, les temps spirituels, les programmations et tables rondes, etc. De diversifier le plus en plus. Les spiritualités, mais également les méthodes d'approche, les traditions, ou les nouveautés, que véritablement ce soit l'image de l'Église qui travaille ensemble à l'évangélisation, plus que nous c'est ça, et puis voilà. Donc c'est un travail même pour nous d'être très ouvert à toute manière de voir les choses.
Merci. Alors il y a Paulin, fond là-bas.
Ok, merci. En tout cas, ça tombait très bien parce que dans notre dernier numéro de Spiritus, 246, il y a un prêtre gabonais qui a été au congrès mission de Strasbourg. Donc, ils nous ont fait un très beau résumé, très, très passionné. Alors, ils nous en ont discuté à notre dernier comité de l'élection. Alors, justement, la question qui a été posée, qui vient d'être posée, il faut avouer que dans nous, à Spiritus, on est plutôt, comme on dit, christianisme social. Alors, la question, c'était justement, est-ce que justement la congrès mission, comme on vient de dire, c'était beaucoup plus charismatique? Et quelle est la place de l'engagement social, l'engagement politique, l'engagement économique dans cette perspective? C'est un peu la question qui s'est posée. Ça tombe bien, donc on peut être là.
Pour vous dire, par exemple, dans Annunzio, parce qu'en fait, c'est vraiment très lié. Annunzio a eu une maison missionnaire qui était en lien avec l'APA, l'Association pour l'Amitié. Et donc, en gros, ils vivaient au même endroit. Des personnes issues de la rue qui étaient en réinsertion sociale et des missionnaires Annunzio qui allaient évangéliser. Et en fait, ils vivaient au même endroit dans la mission en partageant des temps de prière, des temps de fraternité, etc. Nous, par exemple, on a lancé une maison qui s'est terminée mais en juillet dernier, mais dans le 20e arrondissement, qui est une maison missionnaire, en lien avec des engagements sociaux très forts, notamment en lien avec le café Le Dorothy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un tiers-lieu, avec du coup aussi un engagement social assez fort, ou d'autres choses, en fait, comme, enfin voilà, des choses comme Hiver solidaire, où il y a beaucoup de choses aussi auprès des personnes. Enfin, moi, j'ai été par exemple très engagée dans les hôpitaux en tant que visite des malades, que ce soit en hospitalisation à l'hôpital ou aussi en HAD, et de développer les choses en HAD. Ben, en fait, voilà, chacun d'entre nous, il y a évidemment, nous, on a un appel fort à l'évangélisation, mais en tout cas, on ne voit pas que l'évangélisation peut être dissociée d'un engagement social concret aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'entoure de gens dont c'est l'appel premier pour vivre avec eux, partager avec eux. Donc évidemment, au congrès mission, ben, en fait, il ne faut pas qu'on se trahisse notre appel, et qu'en fait le congrès mission n'est pas le congrès de toutes les initiatives d'église, et ce n'est pas juste la représentation de toute l'église et de toutes les questions qui sont liées à l'église. C'est l'appel du congrès mission, c'est vraiment en vue de l'évangélisation, de la proposition de la foi dans le monde actuel. Et donc du coup, il faut qu'on soit sensible à ça. Mais en revanche, par exemple, pour toutes les questions, il y a pas mal de choses sur comment, par exemple, accompagner au catéchuménat les personnes de la rue. Notamment, il y a eu des grandes réflexions qui ont été faites là-dessus, avec notamment les expériences de l'église de la Chapelle à Paris. Voilà, donc vous voyez un peu ce genre de choses où, à la fois, ben, nous, il y a ce qu'on vit dans la mission et au congrès mission, essayer de donner la place vraiment à chacun dans sa spiritualité, dans ce qu'il a, tout en étant fidèle à notre appel et à la vision du congrès mission. Pour pas qu'on se trahisse non plus.
Merci. Oui, alors vous.
Vous m'avez fait une mangeur, donc étudiante en MA, à l'UPT de Paris. J'aimerais savoir vous avez parlé de kérigme apostolique. J'aimerais savoir quelle est la définition de l'évangile dans votre kérigme.
Alors nous, le kérigme, c'est les six points, c'est six points catholiques, en tout cas pour nous. De toute façon, c'est le cœur, c'est très simple, c'est la même chose. C'est Dieu a créé, Dieu est amour, et Dieu a créé le monde par amour. Il a créé le monde et l'homme par amour. Il y a le péché, voilà, qui a traversé l'humanité, toute la création. Et le Seigneur a eu un projet de salut en envoyant son Fils s'incarner, vivre dans le monde, mourir sur la croix pour sauver l'humanité du péché, ouvrir à la vie éternelle, et nous donner son Esprit Saint et son Église. Voilà, en gros, c'est ça, c'est un peu les six points. Et nous, on a notamment des petites choses justement sur ça, des petites formations notamment sur ça. On n'a pas ce que vous disiez dans l'annonce dans la prédication du kérigme. Ça arrive très 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 rarement, il y en a certains, c'est un peu leur dada, mais d'arriver et de prêcher dans le métro ou sur les places. Et donc on ne dit jamais ce kérigme comme ça. On est vraiment toujours dans une rencontre d'annoncer en fait les différents points de ce qu'est le cœur de la foi. Merci.
Merci. D'autres questions, remarques, interrogations? Alors Catherine.
Oui, je suis toujours sur les missions. alors la place de l'histoire des missions est un peu absente dans votre présentation, qui avait été dit d'ailleurs hier soir aussi par le conférencier. Mais moi, ce qui me dérange, c'est être missionnaire. On n'a pas besoin d'être théologien. L'évangile, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un gros travail biblique. Moi, tout ça, ça me dérange. C'est-à-dire que vous dites toujours évangélisation, mais quelle est votre formation? Parce qu'il faut quand même une solidité. Si vous allez dans l'histoire, tous ceux et celles qui ont été, que ce soit des protestants, des catholiques, des hommes et des femmes, ont une solidité, enfin une formation qui s'appuie sur nos textes. Alors, quand vous parlez évangélisation, mais qu'est-ce que vous tirez de l'évangile si vous n'étudiez pas l'évangile? Alors, vous avez juste un petit papier ou un petit livre, mais l'évangile, enfin la Bible, c'est bien quand même le fondement du christianisme. Enfin, je ne sais pas si ça
vous dérange. Non, mais en fait, moi je vous fais une présentation aussi de plein de choses. Je ne peux pas tout aborder en 35 minutes. Et de fait, on m'a demandé aussi de parler du congrès mission. Donc voilà, nous, on n'est pas une communauté, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous sommes formés par les églises et par aussi des parcours en fait de formation. On a lancé également dans Annuncio parce qu'on s'est rendu compte que dans Annuncio, il y avait certaines personnes qui étaient passées complètement en dehors de ce parcours de formation et biblique et théologique de base. Donc voilà, donc en gros, il y a donc, on travaille avec plusieurs personnes qui forment à la Bible. On a eu un parcours en fait, de formation à partir de la Bible. On a aussi une formation sur 2 ans qui s'appelle formation disciple missionnaire, qui est par vidéo, qui a été fait avec le pôle mission de Paris, donc c'est le père Étienne Grenet, où on a à la fois de la formation biblique et de la formation théologique, également à chaque point abordé. Aussi le point au niveau de la mission et de l'évangélisation, qu'est-ce que ça veut dire quand on découvre la foi et différents points là-dessus. Donc voilà, il y a de ça. Il y a également, en fait, par exemple, pour ma part, j'ai passé 2 ans à avoir un petit parcours de formation au Collège des Bernardins. On en a une, par exemple, on a même 2 qui ont passé leur théologie avec les Dominicains en Belgique par correspondance. Il y en a une qui est encore en ce moment en formation au Collège des Bernardins, une au Centre Sèvres. Donc en fait, après, c'est nous, c'est pour ça, entre guillemets, on n'est pas une église, donc on ne se substitue pas à l'église en termes de formation. Néanmoins, on pousse chaque membre à se former dans l'église dans laquelle aussi il est, de suivre les différents parcours qu'il y a. Par exemple, moi, dans ma propre église, je suis un parcours de formation, de partage, etc., de prière au sein de mon église. Après, de fait, c'est là où il y a une grande différence aussi, je pense, et on a beaucoup à apprendre des évangéliques et des protestants, c'est l'importance de la Bible que nous, par exemple, moi, j'ai vraiment redécouvert avec Annuncio il y a 6-7 ans, et qu'on a mis vraiment un coup de boost énorme, parce que dans l'église catholique, dans toutes les paroisses, il y a très peu de formation à la Bible. Et donc à ce moment-là, on a commencé à revoir l'évangélisation des jeunes à partir de la Bible et de comment est-ce qu'on pouvait enseigner. Donc par exemple, l'été dernier, on était avec Marie à animer une session pour les jeunes, une semaine sur la Bible. L'année dernière, on faisait Moïse, mais on a chaque année un peu l'un ou l'autre. Et donc c'est à la fois de la formation pour ceux qui sont chrétiens, mais également des occasions de faire des semaines d'évangélisation pour les jeunes à partir de la Bible aussi, et de temps qu'ils ont à partir de la Bible. Donc voilà, il y a plusieurs choses, mais de fait, j'ai encore énormément besoin de formation. On se redisait ça avec une amie, si seulement on pouvait être à plein temps et avoir de quoi vivre et manger tout en se formant, ce serait super. Mais on est obligé de le faire au fur et à mesure de notre vie et professionnelle et missionnaire. Voilà. Et au sein de l'Église catholique, avec les défauts de la formation dans l'Église catholique aussi.
Merci. Alors, Michel.
Peut-être une question. À travers votre exposé, on sent, je dirais, une certaine improvisation, les événements qui ont conduit à faire. Les différentes personnes avec lesquelles je suis rentré en relation ont des responsabilités. Comment êtes-vous structuré, même si vous dites que vous n'êtes pas une église ou pas un mouvement, quelque chose d'un peu à part, et comment vous êtes-vous structuré ou comment évoluez-vous dans la structuration?
Alors, il y a 2 choses, c'est qu'en fait, ça peut paraître, là ce que je disais, c'est qu'il y a et l'expérience et la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, et on a l'un et l'autre. Et en vrai, on a quand même des gros bosseurs dans le lot. Je peux vous dire que vraiment, il y a une consécration au travail qui doit être faite en plus de notre travail quotidien. C'est pas seulement artistique et hop comme ça, parce qu'on ne montrait pas des événements à 17 000 personnes sans travailler et sans structurer les choses. Au niveau du coup d'Annunzio, ce que je vous disais, il y a toujours les deux structures. Il y a la structure Annunzio Organisation d'événements culturels, la structure Annunzio Mission, qui est vraiment pour l'évangélisation et les différents pôles qui se développent en France, Lille, Nantes, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, etc. Et ces structures-là, et ensuite il y a la structure du Congrès Mission, une autre structure, pour porter l'événement du Congrès Mission qui a lieu fin septembre. Annunzio, il y a un conseil d'administration, un président qui est Gabriel Rochette, qui est directeur d'hôpital par ailleurs à Lille. En dessous, il y a la directrice générale qui est Anne-Geneviève Montagne, qui est la seule employée pour Annunzio. Et pour le congrès mission, il y a un comité, donc un comité dont je fais partie, qui va voir aussi donc, toute la vision un peu du congrès, les directions, les orientations, les décisions qu'on a à prendre. Est-ce qu'on va en région, est-ce qu'on va pas en région, est-ce qu'on va dans 9 villes ou dans 15 villes, est-ce qu'on accepte de partir à l'étranger ou pas, et comment est-ce qu'on s'organise et on se structure. Et dans ce comité-là, il y a plusieurs mouvements d'église et communautés amies qui ont lancé le congrès avec nous, qui viennent pour conseiller, réfléchir, avancer ensemble. Et après, là-dessus, on a un responsable opérationnel du congrès mission, qui s'appelle Guillaume Gastal, qui a été embauché, et lui, il a plein temps pour la coordination générale du congrès et pour l'accompagnement de son déploiement international également. Voilà. Et ensuite, on a toutes les équipes derrière, que ce soit les équipes locales avec des responsables, soit les équipes, en fait, au niveau, par exemple, la programmation. Par exemple, on a une équipe programmation avec un comité éditorial où on a plusieurs personnes qui sont dans ce comité éditorial, qui réfléchissent, on réfléchit ensemble tous les vendredis matin, enfin un vendredi matin sur deux, aux directions, aux réflexions, aux enjeux, à qui est-ce qu'on pourrait aussi inviter sur telle et telle question, ou la manière dont on est travaillé par tel et tel sujet de l'évangélisation, de l'annonce de l'évangile. Voilà.
Donc c'est une association culturelle, c'est ça?
Exactement.
Culturelle, donc avec des délégués, des membres.
Exactement.
Donc, dernière question, Daniel Lichty.
Oui, un des enjeux importants de l'évangélisation, c'est évidemment la pérennisation de cette première relation, ce qui d'ailleurs chez les évangéliques a conduit à mettre en partie en cause ces contacts éphémères, en disant finalement notre appel fondamental selon... l'appel de Jésus, ce n'est pas d'évangéliser, mais c'est de faire des disciples. Mmh. C'est-à-dire, c'est tout un processus. Okay. Et l'évangélisation, si on veut utiliser cela comme une étape un peu technique, fait partie de ce processus. Okay. Alors, qu'est-ce que vous faites pour favoriser donc la pérennisation de vos rencontres? Est-ce que c'est le mouvement qui a un processus qui lui est propre, ou est-ce que cela est confié aux paroisses, ou c'est, au moins chez les évangéliques, c'était un des éléments moteurs pour dire, déjà en 1986, j'ai mentionné Billy Graham, ils ont fait une statistique et ils ont vu que parmi les gens qui se sont avancés, et je ne doute pas moi de cet éveil à la foi, hein, des gens qui se sont avancés, ils ont même prononcé une prière, moins de 5% après 2 ans étaient quelque part visibles dans une église locale, déjà en 86. Et donc aujourd'hui, la perte, entre guillemets, est encore beaucoup plus grande. D'où l'idée de dire, plutôt que d'avoir des rencontres éphémères ou des inconnus parlent à des inconnus, faisons-le d'abord là où nous vivons, et tant mieux s'il y a des rencontres fortuites en plus. Bref, est-ce que vous le faites en tant qu'organisme d'évangélisation ou vous le confiez à d'autres?
Alors, justement, là où on est, c'est qu'en fait, on n'est pas indépendant des églises. C'est-à-dire qu'on travaille avec les églises locales, par exemple, les missions qui ont lieu dans des pôles, par exemple, nous, par exemple, mensuellement, un peu la vitrine au niveau de la mission d'Annunzio à Paris, c'est à Saint-Séverin, on est en lien avec les églises locales. Moi, par exemple, je suis engagée dans mon église locale. Et notamment dans le parcours d'accompagnement dans la conversion pastorale missionnaire, on parle du processus pour faire des disciples et le processus de croissance avec les différentes étapes et aider les églises à proposer des choses à chaque étape pour les personnes afin qu'ils puissent petit à petit être disciples, puis être disciples serviteurs, puis être disciples missionnaires. et d'aider véritablement les églises à penser ce processus de croissance-là dans le long terme. Dans l'Église catholique, je pense que c'est encore plus dramatique, je ne sais pas, mais en tout cas c'est assez dramatique, parce que même au-delà même du baptême, par exemple chez nous, il y a à peu près 50% des personnes qui ont reçu le baptême comme adultes dans l'Église catholique, ce qui est vraiment colossal, qui quittent la communauté chrétienne après maximum 3 ans. Sachant que la préparation au baptême dans l'Église catholique, c'est au minimum 2 ans. Donc c'est déjà une première découverte de la foi, ensuite un parcours de catéchèse pendant 2 ans, et en fait, après leur baptême, ils quittent l'Église par la communauté en moins de 3 ans, pour 50% d'entre eux. Donc il y a un véritable problème pour faire des disciples dans l'Église catholique. Ce pourquoi nous travaillons avec beaucoup de communautés, justement pour aider à dire il faut faire des disciples, et concrètement utiliser aussi notre intelligence, proposer des choses et accompagner les personnes dans leurs différentes étapes spirituelles de foi. Mais néanmoins, notre tradition catholique, il faut se rendre compte que l'évangélisation dans la proclamation, enfin aussi première, et du témoignage, en fait, est beaucoup moins important dans cette tradition que chez les évangéliques ou chez les protestants, qui pour vous est quasiment enfin, lié à votre identité, c'est-à-dire c'est naturel pour vous. Chez les catholiques, moi j'étais un énergumène en arrivant chez les catholiques, en arrivant du milieu évangélique, de témoigner autour de moi de ma foi. On me disait, mais t'as un problème en fait, il faut garder ça pour toi, c'est pas possible. Donc c'est aussi dans l'Église, je pense que l'Esprit-Saint a suscité un nuncio également pour être un peu l'aiguille dans le talon de l'Église catholique pour redire, retrouve ton élan et ton zèle missionnaire, tu peux pas faire de l'Esprit-Saint et de la foi un lac stagnant, accueille ce mouvement de mission, d'extériorisation, d'annonce de l'Évangile et d'accueil de toutes personnes qui sont là dans leur chemin spirituel. Et du coup, après, on travaille, par exemple, je travaille assez proche, en binôme assez souvent, avec Anne-France de Boissière pour Alpha. On travaille énormément, notamment ici même au sein du congrès, mais dans l'église, ou dans, par exemple, le pasteur selon mon cœur, ou par exemple, où j'étais cette année, la formation donc, du coup, des prêtres en école de gouvernance pastorale qui existe aussi pour les pasteurs, mais pour l'évangélisation et en vue d'avoir l'intelligence de penser des parcours de croissance pour faire des disciples. Mais voilà, nous, on est encore une fois, on n'est pas une église, on n'est pas. Donc on a développé pas mal de choses, par exemple des dîners kérigmatiques ou des choses pour des parcours, des petites fraternités qu'on accueille, mais ça reste vraiment comme un laboratoire qu'ensuite on va développer au sein d'églises locales, avec les églises locales et les communautés.
Merci.
Voilà, je ne sais pas si c'est assez.
Oui, mmh. Oui, voilà. Merci. Ben, merci beaucoup, hein, on peut encore. Voilà. Présentation.
Merci beaucoup.
Alors, au niveau des indications pratiques pour la suite de la journée, je vais demander au conseil d'administration de venir là parce qu'on va trouver des dates, je n'ai pas oublié, pour les conseils et la prochaine assemblée générale. Les personnes invitées, donc les orateurs, oratrices, sont invités à se joindre à nous pour le repas. Pour les autres personnes, ben, il y a de quoi manger dans le quartier, un petit peu à droite, à gauche, près de la station de métro, là, Saint-Jacques. Ou sinon, vous pouvez aussi aller au restaurant, comment ça s'appelle ?
Le café d'enfer,
à la place d'enfer Rochereau, donc vous pouvez
vous joindre à nous.
Et on se retrouve à 14h, donc les amis qui sont en visio aux conférences, je vais couper la connexion, on se retrouve à 14h. Voilà. Merci. Alors, il faut qu'on trouve une date.